Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
C'est un scandale qui doit prendre fin. Nous devons reconnaître avec douleur les divisions entre des communautés qui professent le nom du Christ. Pourtant, il crée la communion et non la division. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le pape parle d'œcuménisme. La conférence de paix pour la Syrie, la conférence de tous les espoirs, s'est ouverte à Montreux, en Suisse. Le pape prie le Seigneur pour qu'il touche les cœurs de tous les participants. Vous entendrez Mgr Tomasi, l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU à Genève. Ce qu'on apprend ce mercredi au Vatican, le pape pourrait se rendre cet été en Corée du Sud. L'Irlande rouvre son ambassade près le Saint-Siège. Lior publie un rapport sur l'état de l'avancée de ses réformes. Et puis enfin, dans cette émission, nous donnons la parole à Antoine Arjakovski, historien co-directeur du pôle Société, Paix et Liberté au Collège des Bernardins à Paris. Il nous parle du rôle des églises en Ukraine, où des pro-européens bravent le pouvoir, pouvoir qui s'est rapproché de Moscou. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. L'actualité du mercredi, l'audience générale face à des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre malgré un ciel changeant. Le pape a fait une pause dans son cycle de catéchèse sur les sacrements. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, François a interpellé les fidèles sur l'œcuménisme et le thème de réflexion de cette année. Le Christ est-il divisé ? Non, a répondu le pape, le Christ n'est pas divisé, mais nous devons reconnaître avec douleur les divisions entre des communautés qui professent le nom du Christ. Or, le nom du Christ, a-t-il dit, crée la communion et l'unité, non la division. Le pape François a parlé d'un scandale qui doit prendre fin. Il a encore souligné que le baptême et la croix sont des éléments centraux du chrétien que nous avons en commun. Je vous propose de retrouver en intégralité cette catéchèse sur le site de Radio Vatican, www.radiovaticana.va. La foi ne doit pas être un motif de division, mais un instrument d'unité et de communion avec Dieu et avec nos frères. C'est ce qu'a également affirmé le pape en s'adressant ce mercredi matin aux pèlerins de langue arabe et notamment à ceux venant d'Égypte. Que l'invocation du nom du Seigneur ne soit pas une raison pour se fermer, mais bien un chemin pour ouvrir son cœur, a expliqué le pape. À l'amour qui unit et qui enrichit. C'est parti pour des heures de tractation, de débat. Tout ça est très délicat. La deuxième conférence de paix pour la Syrie s'est ouverte ce mercredi matin à Montreux, en Suisse. Le coup d'envoi de Genève 2 a été donné par le secrétaire général des Nations Unies. Après presque 3 ans de guerre, représentants du régime syrien, de l'opposition en exil, se retrouvent face à face sous l'égide des grandes puissances pour tenter de mettre un terme au conflit qui a fait plus de 100 000 morts. La fin des violences, le pape François n'a cessé de la réclamer ce mercredi matin, une fois encore au terme de l'audience générale. On l'écoute.
Prego il Signore.
Je prie le Seigneur pour qu'il touche les cœurs de tous, afin que, en cherchant uniquement le bien du peuple syrien si éprouvé, on n'épargne aucun effort pour arriver de manière urgente à la fin de la violence et du conflit qui a causé déjà trop de souffrances. Je souhaite à la chère nation syrienne un chemin déterminé de réconciliation, d'entente et de reconstruction avec la participation de tous les citoyens, afin que chacun puisse trouver dans l'autre non pas un ennemi, non pas un concurrent, mais un frère à accueillir et à embrasser.
Le Saint-Siège qui ne ménage pas ses efforts pour trouver une solution politique, diplomatique à la guerre syrienne est représenté lui aussi à Montreux par son observateur permanent auprès des organismes de l'ONU à Genève. Mgr Silvano Tomasi, qu'Olivier Bonnel a rencontré ce mardi, quelques heures avant l'ouverture de la conférence.
La priorité absolue qui est exigée des parts de la population est que la violence puisse conclure. Il faut mettre fin à la violence, à la destruction, à la mort, 130 000 morts, des villes entières détruites. Et confronté avec cette réalité, la conscience internationale essaie de répondre avec un peu de solidarité et de trouver un compromis acceptable pour commencer des négociations efficaces.
L'Iran, qui a été invité, ne sera finalement pas à la table des négociations. Est-ce que vous le regrettez ?
La raison politique détermine certains choix. On a dû prendre des décisions un peu étranges, je dirais. Parce que, c'est mon opinion, il est peu réaliste d'essayer d'avoir la paix sans un des pouvoirs clés dans la région. Mais on espère qu'avec les discussions en cours sur la question du nucléaire, on puisse continuer à maintenir la porte un peu ouverte pour ne pas empêcher les dialogues qu'on commence avec la Syrie. On espère. Il faut prier. On a besoin vraiment de quelques miracles en ces moments.
Ban Ki-moon a dit ce mardi qu'a priori, il n'y aurait pas de déclaration finale de cette conférence, pas de document en tout cas contraignant, comme il y a eu un à Genève 1. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être déçu ?
Il est clair que les difficultés sont énormes. Il n'est pas clair s'il y aura un résultat positif. De ma part, je pense que les faits qu'on se réunisse et qu'on commence à se regarder en face est déjà un pas positif. Et on peut commencer à construire quelque chose plus substantiel, avec un peu de patience.
Vous représentez le Saint-Siège. Qu'est-ce que l'Église va dire ?
La position du Saint-Siège a été exprimée plusieurs fois par le Saint-Père François. Il a dit que la violence n'aboutit à rien, seulement la destruction, à la mort, à la souffrance de la population. La préoccupation du Saint-Siège est de travailler pour la paix, évidemment, et commencer la reconstruction et la réconciliation, surtout avec la solidarité financière et l'aide de la communauté internationale, pour employer les jeunes syriens dans la reconstruction de manière qu'ils ne soient pas tentés d'aller renforcer les fils de quelques groupes extra-gouvernementaux qui créent la déstabilisation et la violence. La présence des chrétiennes au Moyen-Orient est naturellement un intérêt concret et réel du Saint-Siège, parce qu'ils ont les mêmes droits que les autres citoyens d'être respectés. Mais il y a aussi une autre raison, je crois, qui nous parle de l'importance de la présence des communautés chrétiennes au Moyen-Orient. Si on veut aider l'évolution de ces pays vers une vraie démocratie, la pluralité des présences, des traditions et des religions est importante.
À Montreux, les espoirs sont immenses et déjà contrastés par un climat très tendu. Accusations de trahison, passe d'armes entre le secrétaire général de l'ONU et le chef de la diplomatie syrienne. La conférence de paix de Genève 2 à Montreux a connu un début difficile. Le fossé est gigantesque entre le régime de Bachar al-Assad et l'opposition syrienne en exil. Les discussions se poursuivront ce jeudi à Montreux avant un face-à-face entre les parties intersyriennes prévues vendredi. Rappelons que ce conflit a provoqué donc depuis son début au printemps 2011 plus de 100 000 morts, des millions de réfugiés et de déplacés. Le pape François invite l'Église à se rendre aux périphéries et c'est peut-être ce qu'il fera lui-même. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège confirme qu'un voyage du pape en Corée du Sud est à l'étude. Le pape a été invité par les autorités sud-coréennes et pourrait s'y rendre vers la mi-août pour les Journées mondiales asiatiques de la jeunesse. C'est ce qu'a précisé le père Lombardi. Et d'ailleurs, le 22 février prochain, François créera cardinal Mgr Andrew Yeom So-young, l'archevêque de Séoul. Où en est au Vatican la mise en conformité du IOR avec les normes internationales en matière bancaire? Ce mercredi, le conseil de surintendance de l'Institut pour les œuvres de religion a reçu un rapport sur l'état d'avancement du processus de réforme. Réforme toujours en cours pour aligner l'IOR sur la législation actuelle du Vatican en matière notamment de lutte contre le recyclage d'argent. Bernard de Cotigny.
Il reste encore beaucoup à faire, il n'y a aucun doute, mais nous sommes sur la bonne route. Des progrès significatifs ont été accomplis, a affirmé le président de l'IOR, Ernst von Freiberg. Le rapport remis ce mercredi précise en effet que les comptes de 55% des 10 000 clients ont déjà été contrôlés. Le reste suivra d'ici juin. Ils feront aussi l'objet d'une inspection imminente de l'autorité d'information financière du Saint-Siège. L'IOR a par ailleurs défini précisément les catégories de clients qui ont le droit de posséder des comptes chez lui. Y sont autorisées les institutions catholiques, ecclésiastiques, qui représentent environ 85% des comptes, mais aussi les employés ou ex-employés de l'État du Vatican, titulaires de comptes pour leur salaire et retraite, et ambassades et diplomates accrédités près le Saint-Siège. Ne sera plus client de l'IOR qui veut donc. Selon le communiqué, les relations avec les clients qui ne rentrent pas dans ces catégories cesseront dans le cadre d'un processus qui ne doit cependant pas être confondu avec la suspension des relations avec des clients pour violation des normes contre le recyclage. L'IOR entretient aujourd'hui des relations avec 35 banques pour offrir des services de paiement globaux, en particulier à ses clients institutionnels. L'Institut annonce enfin qu'il publiera mi-2014 son rapport annuel. Rappelons qu'une commission d'experts doit rendre compte au pape en février prochain de ses propositions pour une réforme complète de l'Institut.
C'est désormais chose faite. La France a assoupli le droit à l'avortement. L'amendement qui supprimait la notion de détresse pour une femme requérant une IVG a été adopté mardi soir par une centaine de députés, et ce, après un débat passionné. Les explications de Manuela Fidji.
La forte mobilisation des anti-avortements dimanche n'aura pas suffi. Moins d'un an après l'adoption du mariage homosexuel, l'Assemblée nationale a adopté cette nuit l'amendement supprimant la notion de détresse. La gauche a fait bloc autour de cet amendement controversé. La situation de détresse prévue par la loi Veil était devenue, selon eux, obsolète. Certains héros de la droite française, qui a pourtant voté en majorité pour cet amendement, accusent le gouvernement de diviser une fois de plus les Français. Ils crient à la faute politique et morale. Si la loi Veil de 1975 faisait de l'avortement une exception, l'amendement qui a été voté cette nuit risque de le banaliser. Autre amendement controversé qui sera soumis prochainement au vote des députés, celui du délit d'entrave. Le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher un avortement serait réprimé, ainsi que le cas de toute entrave à l'information sur ce droit.
La Fondation Jérôme Lejeune ou encore le collectif En Marche pour la Vie déplore le vote des députés qui marque un grave tournant. L'avortement aujourd'hui banalisé, écrivent-ils, est mis au rang d'un simple contraceptif. Il s'agit d'une négation totale de ce qui se passe dans le corps d'une femme enceinte, tant sur le plan physique que psychologique, et une négation du droit de vivre de l'enfant conçu. C'est ce qu'écrit le collectif En Marche pour la Vie dans un communiqué. Et puis on défend la vie aussi aux États-Unis, à Washington. La 41e Marche pour la Vie a lieu ce mercredi. Le rendez-vous rassemble des milliers de personnes chaque année en janvier. Ce mardi, une veillée a déjà rassemblé quelque 10 000 personnes. Soutenues par l'Église américaine, les pro-life dénoncent la sentence de la Cour suprême dans l'affaire Roe versus Wade, une sentence qui avait en 1973 légalisé l'avortement dans le pays. Et à cette occasion, et comme il l'avait déjà fait pour la France, le pape François a publié un tweet de soutien en anglais et en espagnol. Il dit se joindre à la marche avec ses prières, que Dieu nous aide à respecter chaque vie, et en particulier celle des plus faibles, écrit-il. Trois manifestants pro-européens ont trouvé la mort dans la capitale ukrainienne, chute de 10 mètres ou abattus par des snipers. À Kiev, la police a avancé des blindés pour dégager les détracteurs de Viktor Yanukovych. Gaz, grenades pour disperser ceux qui réclament Place Maïden, que le gouvernement signe un traité d'association avec l'Union européenne, un choix qui n'a pas été celui du président. L'Ukraine dépendant largement de la Russie pour ses approvisionnements en gaz, il s'est tourné vers Moscou. Dans ce conflit, le clivage traditionnel entre catholiques pro-européens et orthodoxes pro-russes ne correspond plus à la réalité. Alors que Moscou dénonce des ingérences étrangères à Kiev, que l'Union européenne dénonce avec force la répression des manifestants, les églises jouent, elles, un rôle de défense de l'identité ukrainienne. C'est ce que nous explique Antoine Arjakovski. Il est historien, co-directeur du pôle Société, Paix et Liberté au Collège des Bernardins à Paris.
qui a tenu le pays, c'est l'Église. Les églises gréco-catholiques ont été encore plus persécutées que les églises orthodoxes parce qu'elles ont été carrément interdites pendant donc plus de 50 ans. Donc pour les jeunes, c'est vrai que l'Église est une référence. Les personnalités les plus populaires qui ont le plus de confiance dans la population, ce n'est pas les politiques, c'est les chefs des églises.
Est-ce que ces églises réussissent à mener un véritable travail œcuménique ?
Il y a un travail œcuménique qui est important depuis 20 ans. En Ukraine occidentale, eh bien, il y a le désir de cette église gréco-catholique de se réconcilier avec l'église orthodoxe qui pourtant a contribué à sa persécution puisqu'il y a des blessures profondes. En 1946, il y a un concile qui a été réuni par l'église orthodoxe et qui a contribué à éliminer cette église gréco-catholique qu'on appelle aussi l'église uniate. Donc il y a des contentieux et très très lourds, des blessures profondes, mais en même temps, ça a été le désir de cette Église, de tendre la main et de se réconcilier. Donc je dirais que si en Russie, le mot écuménisme est un gros mot qu'on ne prononce pas dans les milieux ecclésiaux, c'est pas le cas en Ukraine. Par contre, beaucoup de gens disent que le véritable écuménisme va mettre du temps avant de se mettre en place. Mais les gens voudraient tendre vers une réalité de dialogue. Le problème, c'est que l'Église orthodoxe est divisée en deux branches principales. L'Église orthodoxe ukrainienne, qui dépend du patriarcat de Moscou, et l'Église du patriarcat de Kiev, comme on l'appelle, qui n'est pas reconnue par les autres églises orthodoxes dans le monde, mais qui, en Ukraine, compte plus de 10 millions de fidèles. Donc, une église très importante et qui a comme caractéristique de vouloir, disons, être ukrainienne, de célébrer en langue ukrainienne. Et donc, il y a cette tension entre l'église du patriarcat de Kiev et l'église orthodoxe ukrainienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que mi-décembre, les deux églises ont signé, du reste également avec les églises catholiques et les églises protestantes, une même déclaration disant au gouvernement de Yanukovych qu'il était nécessaire de reconnaître la colère des Ukrainiens et d'éviter surtout le schéma de la partition de l'Ukraine, comme le voudrait le président Poutine en Russie.
Est-ce que le risque d'une partition du pays est aujourd'hui réel ?
Ce risque existe. En fait, c'est une région et demie qui insiste sur la partition. C'est la région de Donetsk et puis certaines personnes en Crimée. Donc oui, le risque existe bien, et d'autant plus que le président Poutine a affirmé que pour lui, la solution la plus simple, ce serait justement la partition. Il reconnaît que l'Ukraine occidentale est ingérable dans le système néo-soviétique qu'il est en train de mettre en place. Le problème, c'est que les Ukrainiens ont une véritable identité propre. La langue ukrainienne est partagée de l'ouest à l'est, du nord au sud, même si à l'est on est plus russophone. Même si parfois on pourrait se dire que la partition pourrait être une bonne solution, on l'a vu pour la Tchécoslovaquie, eh bien, pratiquement, ça paraît très difficile à réaliser, parce que ça irait en sens inverse de plusieurs siècles où les Ukrainiens ont été divisés par les empires, et toute leur énergie en tant que nation, c'est justement au contraire de se retrouver et de reconstituer cette Rousse de Kiev qui, entre le 9e et le 15e siècle, a été unie et a donné beaucoup de fruits spirituels, culturels, esthétiques, politiques, etc.
Antoine Arjakovski, historien, co-directeur du pôle Société, Paix et Liberté au Collège des Bernardins, était interrogé par Cyprien Viette. Et puis cette nouvelle, l'Irlande va rouvrir son ambassade près le Saint-Siège. Ce sera une mission diplomatique de taille réduite, composée d'une seule personne qui se concentrera sur les questions de développement international. C'est ce qu'affirmait ce mardi le ministère irlandais des Affaires étrangères. Ce mercredi, le primat d'Irlande a exprimé sa satisfaction. Le cardinal Sean Brady a salué cette décision, se réjouissant d'une coopération fructueuse pour le bien commun à venir, pour la justice, la paix, l'éradication de la pauvreté ou encore la protection de la création. Pour le cardinal Brady, cette décision reflète positivement le processus de dialogue entre l'Église et l'État. Officiellement, l'ambassade irlandaise près le Saint-Siège avait été fermée pour des raisons économiques, mais cette fermeture, le 3 novembre 2011, intervenait 4 mois après un discours véhément du Premier ministre irlandais devant le Parlement. Edna Kenny avait fustigé le dysfonctionnement, le caractère déconnecté, je cite, élitiste, narcissique du Vatican. Réaction musclée après la publication d'un rapport couvrant plus d'une décennie d'agressions sexuelles commises par des prêtres sur des enfants dans le diocèse de Cloyne, au sud de l'Irlande. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité, de votre écoute attentive. Prochain magazine, demain, même lieu, même heure. N'hésitez pas d'ici là à vous rendre sur notre site internet. Je vous rappelle notre adresse www.radiovaticana.va.